Chapitre 2 Les marchands du désert des pluies.
Tout ce qui sort de l'ordinaire me dérange. Voilà pourquoi,
fit grand-mère d'un ton sec.
Excuse-moi, répondit la mère de Malta d'un ton neutre. Ce n'était qu'une question.
Debout derrière grand-mère qui était elle-même assise devant sa coiffeuse, elle lui faisait un chignon. Elle n'avait pas l'air repentante, mais lasse de l'irritabilité constante de sa mère. Malta ne lui jetait pas la pierre. Elle aussi en avait assez de leur caractère acariâtre à toutes les deux. Elle avait l'impression qu'elle ne se préoccupait que du côté triste, que des soucis de l'existence. Ce soir-là, une grande assemblée de premiers marchands se tenait et elles y emmenaient Malta, qui avait passé la plus grande partie de l'après-midi à se coiffer et à essayer sa nouvelle robe. Mais voici que sa mère et sa grand-mère s'habillaient à la dernière minute, la mine sombre, comme si la soirée était une corvée ennuyeuse au lieu d'une occasion de sortir, de voir des gens et de bavarder. Elle ne les comprenait vraiment pas.
« Alors, vous êtes prêtes ?»
les pressa-t-elle. Elle ne voulait pas arriver la dernière à la réunion. On palabrerait beaucoup ce soir et on discuterait d'affaires entre marchands de Terrilville et marchands du désert des pluies, avait dit sa mère. Malta ne voyait pas en quoi cela inquiétait tant sa mère et sa grand-mère. Elle aurait sans doute droit à la fameuse réplique « Assieds-toi sans bouger et ne nous dérange pas ». C'est pourquoi elle tenait à se présenter tant que les gens bavarderaient encore entre eux et échangeraient des saluts en prenant des rafraîchissements. Elle rencontrerait peut-être Dilo et pourrait s'asseoir à côté d'elle.
C'était ridicule de mettre aussi longtemps à se préparer. Elles auraient dû avoir chacune une servante pour les aider à se coiffer, sortir leurs vêtements et tout le reste. Toutes les autres familles de marchands en avaient. Mais non, grand-mère prétendait que les Vestrites n'en avaient plus les moyens et maman la soutenait. Et quand Malta avait voulu discuter, elle l'avait obligée à s'asseoir devant un gros tas de baguettes à encoches et de récépissés et à essayer de les reporter dans un des livres de contes. Elle s'était trompée dans ses calculs. Et grand-mère l'avait obligée à réécrire toute la page. Ensuite, elle avait tenu à parler de ce que signifiaient les bilans et de la raison pour laquelle ils indiquaient qu'il n'était plus possible de garder des domestiques, à part Nounou et Rack. Comme Malta serait soulagée quand papa serait de retour. Elle devait omettre quelque chose, elle en était sûre. Comment pouvait-elle être subitement devenue pauvre? Rien n'avait changé. Et pourtant, elles étaient là, à porter des robes vieilles de 2 ans, et à se coiffer mutuellement tout en se querellant.
« On y va bientôt ?»
demanda Malta encore une fois. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne répondait pas.
« Est-ce que nous te donnons l'impression d'être prête à partir ?»
répliqua sa mère.
« Malta, essaie de te rendre utile au lieu de me faire tourner en bourrique, s'il te plaît. Va voir si la voiture du marchand Restart est arrivée. »«
Oh non, pas lui !»
protesta Malta.
« Je t'en prie, dis-moi que nous n'allons pas voyager avec lui dans cette vieille voiture puante. Maman, les portières ne ferment même pas bien. Quelle humiliation si je dois aller avec !»«
Malta, va voir si la voiture est arrivée. »
ordonna grand-mère d'un ton sévère, comme si sa mère ne l'avait pas déjà demandé. Avec un soupir, Malta sortit.
Le temps qu'elles arrivent, il ne resterait plus rien à boire ni à manger et tout le monde aurait pris place sur les bancs du conseil. Si elle devait assister à une réunion de bout en bout, elle voulait au moins profiter de la partie amusante de la soirée. En suivant le couloir, elle se demanda si Dilo serait là.
Serwin y participerait, lui. Sa famille le traitait en adulte depuis des années.
Dilo l'accompagnerait peut-être et Malta trouverait un moyen d'obtenir la permission de s'asseoir près d'elle.
Après cela, elle n'aurait pas de mal à persuader Dilo de s'installer à côté de son frère.
Elle n'avait plus vu Serwin depuis le jour où maman avait insisté pour lui faire visiter la serre.
Mais cela ne signifiait pas qu'elle ne l'intéressait plus. À cette pensée, elle fit un crochet par les cabinets. Un petit miroir y était accroché au mur. La lumière n'était pas bonne, mais Malta sourit devant son reflet. Elle avait dégagé son visage en tressant ses cheveux sombres et en les fixant au sommet de sa tête. Des mèches dansaient librement sur son front et frôlaient ses pommettes. On ne lui permettait encore que des fleurs comme ornement, mais elle avait choisi les dernières roses, toutes petites, qui s'épanouissaient dans la serre. Elles étaient d'un rouge sombre et elles dégageaient un parfum capiteux. Sa robe était très simple, mais au moins ce n'était pas un sarrau de petite fille. C'était une robe de marchand, comme en portaient tous les marchands lors du genre de réunion de ce soir. La sienne était d'un magenta profond, presque de la même teinte que les roses qui paraissent sa chevelure. C'était la couleur traditionnelle des vestrites. Malta aurait préféré du bleu, mais le magenta lui allait bien aussi. Et au moins, la robe était neuve. Elle n'avait encore jamais porté de robe de marchand. C'était un vêtement assez strict, au col rond, qui descendait jusqu'aux chevilles et serré à la taille comme une bure de moine. Elle admira le cuir noir et luisant de la large ceinture, l'initiale stylisée qui en formait la boucle. Elle l'avait bien serré, afin de mettre en valeur l'arrondi de ses hanches et tendre le tissu sur sa poitrine. Papa avait raison, elle avait déjà les formes d'une femme. Pourquoi n'en disposerait-elle pas aussi des vêtements et des privilèges? Bah, il suffisait d'attendre qu'il rentre, et alors la situation allait changer à la maison. Son commerce se porterait bien. Il reviendrait les poches pleines d'argent. Et il apprendrait la façon dont on avait maltraité sa fille, dont on lui avait confisqué sa robe et... Malta ! Sa mère ouvrit brusquement la porte. « Que fais-tu là-dedans ? Tout le monde t'attend ! Prends ta cape et viens !»« La voiture est là ? » demanda-t-elle en suivant sa mère. « Oui !» répondit Kefria d'un ton âpre. « Et le marchand Restart est à côté, en train de nous attendre. » « Mais pourquoi n'a-t-il pas frappé ou sonné la cloche ou... »« Il a frappé !» l'interrompit sa mère d'un ton sec. « Mais comme d'habitude, tu avais la tête ailleurs. »« Est-ce que je suis obligée de mettre ma vieille cape ? Nous allons en voiture, ensuite nous serons dans la salle, et elle fait ridicule sur ma nouvelle robe. »« Il fait froid dehors, mets-la, et tâche de ne pas oublier tes manières ce soir, s'il te plaît. Fais attention à ce qui se dit. » Les familles du désert des pluies ne demandent pas la réunion de tous les premiers marchands sans raison valable. Je ne doute pas que les propos tenus à l'audience affecteront notre sort à tous. Et rappelle-toi que les gens du désert des pluies nous sont apparentés. Ne les dévisage pas, conduis-toi le mieux possible et...
Oui, maman.
C'était au moins la sixième fois de la journée que sa mère lui infligeait le même sermon. Croyait-elle Malta sourde ou stupide ? Ne lui serinait-on pas depuis sa naissance que sa famille était apparentée à celle du désert des pluies ? Cela lui remit un détail en mémoire, et elle dit, alors qu'elle sortait sous l'œil sévère de Nounou,
« Il paraît que les gens du désert des pluies ont un nouveau produit, les bijoux de feu. À ce qu'on m'a raconté, ce sont des perles limpides comme des gouttes d'eau, mais de petites langues de flamme dansent à l'intérieur de chacune d'elles. »
Sa mère ne prit même pas la peine de répondre.
Grand merci d'avoir patienté, Davad, et d'avoir fait un tel détour pour nous,
dit-elle au petit homme replet. Le visage rayonnant de plaisir et luisant de graisse, il aida Kefria à monter dans la voiture. Malta, elle, ne lui adressa pas la parole et réussit à grimper d'un bond avant qu'il pût toucher son bras. Elle n'avait pas oublié ni pardonné le dernier voyage qu'il lui avait imposé. Sa mère s'était installée à côté de sa grand-mère.
Elle ne s'imaginait tout de même pas qu'elle allait s'asseoir près du marchand Restart. C'était trop dégoûtant.
« Puis-je me mettre au milieu ? »
demanda-t-elle, et elle se glissa entre les deux femmes.
« Maman, tu sais, ces bijoux de feu... » reprit-elle, plein d'espoir.
Mais le marchand lui coupa la parole comme si elle n'existait pas. « Vous êtes prête ? » « Eh bien, allons-y alors. Je regrette, mais je vais devoir m'asseoir près de la portière pour la tenir fermée. J'avais dit à mon valet de la faire réparer, mais quand j'ai demandé qu'on sorte la voiture ce soir, je me suis aperçu que le travail n'avait pas été effectué. C'est exaspérant. À quoi bon avoir des domestiques s'ils n'obéissent pas lorsqu'on leur donne un ordre ? C'est à vous faire regretter que l'esclavage soit interdit à Terrilleville. » Un esclave sait que son confort et son bien-être dépendent uniquement de la bonne volonté de son maître, et ça l'oblige à faire attention à ce qu'on lui dit. Et patati et patata, comme ça jusqu'au rassemblement. Le marchand Restart parlait, maman et grand-mère écoutaient. Tout au plus émettait-elle de temps en temps et avec politesse un avis divergent, alors que Malta avait entendu sa grand-mère répéter 100 fois que l'esclavage amènerait la ruine de Terrilville. Opinion qu'elle ne partageait d'ailleurs pas. Papa ne se serait pas lancé dans ce commerce s'il n'était pas profitable. Cependant, elle trouvait peu courageux de la part de son aïeul de tenir un certain discours à la maison et de s'aplatir devant Restart. L'argument le plus fort qu'elle employa fut
« Davad, je n'ai qu'à m'imaginer dans la peau d'un esclave pour savoir que c'est mal. »
Comme si c'était un argument décisif. La discussion ennuyait profondément Malta, bien avant que la voiture ne s'arrête, et elle n'avait toujours pas réussi à parler à sa mère des bijoux de feu. Mais au moins, elles ne furent pas les dernières arrivées, pas tout à fait. Malta dut faire appel à toute sa patience pour rester à sa place pendant que Restart se bagarrait avec le loquet défectueux, puis descendait lourdement de voiture. Elle le suivit de près, s'esquivant adroitement avant qu'il pût prendre sa main dans sa paume épaisse et moite. Cet homme lui donnait constamment envie de se laver. « Malta !» fit sèchement sa mère alors qu'elle s'engageait dans l'allée. Sans même baisser le ton, elle ajouta « Attends-nous, nous entrerons tous ensemble !» Malta pinça les lèvres en poussant un soupir exaspéré. Elle le fit sciemment. Sa mère adorait s'adresser à elle en public comme si elle était encore une enfant. Elle s'arrêta, mais quand les deux femmes et l'homme la rattrapèrent, elle se laissa distancer et resta derrière eux, pas trop loin, de façon que sa mère ne pût pas la rappeler à l'ordre, mais pas trop près non plus afin de ne pas tout à fait paraître faire partie de leur groupe. La salle des marchands était plongée dans l'obscurité. Enfin, pas tout à fait, mais elle n'était assurément pas illuminée comme pour le bal des moissons. Deux torches, pas davantage, éclairaient l'allée, et la lueur pâle des fenêtres filtrait par les interstices des volets fermés. Cela tenait sans doute à ce que la réunion avait été demandée par les familles du désert des pluies. Ces gens n'aimaient pas la lumière, c'est du moins ce qu'on prétendait. D'après Dilo, elle leur faisait mal aux yeux, mais Malta soupçonnait plus simplement que s'ils étaient tous aussi laids que le représentant qu'elle avait vu, ils n'avaient pas envie que tout le monde les regarde. À l'instant où le cocher de Davad faisait avancer ses chevaux, une nouvelle voiture s'arrêta. Elle était de style ancien, les fenêtres obstruées par d'épais rabats de dentelle. Malta ralentit le pas pour voir qui allait en descendre et scruta la pénombre pour distinguer le blason peint sur la portière. Elle ne le connaissait pas. Ce n'étaient pas les armoiries d'une famille de premiers marchands. Les nouveaux venus étaient donc sans doute du désert des pluies. Personne d'autre n'aurait l'audace de se présenter à la réunion. Elle continua d'avancer, mais ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir les occupants de la voiture. 6 personnes apparurent, vêtues de capes et de capuches de couleur sombre. Mais à mesure que chacune descendait du marchepied, le contact d'une main gantée sur un col ou une manchette produisait des lueurs ambre, rouges et orangées. Malta sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque lorsqu'elle comprit ce qu'elle observait. C'était des bijoux de feu. Elle s'arrêta, pétrifiée. Ah, la rumeur ne leur rendait pas justice. Retenant son souffle, elle regarda les pierres de tous ses yeux. Plus elle s'approchait, plus elle semblait magnifique.
Malta !
Elle perçut l'avertissement dans le ton de sa mère. « Bonsoir. » Une voix rauque de femme était issue des profondeurs ténébreuses du capuchon, dont Malta s'aperçut qu'il était voilé par un rideau de dentelle. Quel visage pouvait être hideux au point de devoir le dissimuler même dans l'obscurité? Les bijoux de feu que portait la femme étaient écarlates et tiraient les coins inférieurs de son voile. Malta entendit vaguement des pas pressés derrière elle, accompagnée d'un doux bruissement de tissu. Et elle sursauta quand sa mère prit la parole juste à côté d'elle.
« Bonsoir, je suis Kefria, de la famille de marchands Vestrit.
Et Yanni, des rouproses du désert des pluies vous saluent, » répondit la femme encapuchonnée.
« Puis-je vous présenter ma fille, Malta Havre, de la famille Vestrit ?»«
Certainement. » La voix était un ronronnement cultivé.
Avec retard, Malta se ressaisit et fit une révérence. La femme eut un petit rire approbateur, puis reprit en s'adressant à la mère de Malta. « Je ne crois pas l'avoir déjà vue à un rassemblement. Viendrait-elle seulement d'entrer en société ?»«
En vérité, c'est son premier rassemblement. Elle n'a pas encore été présentée. Sa grand-mère et moi-même sommes d'avis qu'elle doit apprendre les devoirs et les responsabilités d'une femme marchande avant d'être introduite comme telle. »
Contrastant avec le ton de Yanni, celui de la mère de Malta était courtois et pressé, comme si elle s'efforçait d'effacer une mauvaise impression.
« Ah, cela ressemble bien à Ronica Westreet. J'approuve cette attitude qui se raréfie à Terrilville de nos jours, je le crains. »
La voix avait pris des intonations douces et chaudes. Malta ne put se retenir.
« Vos bijoux sont magnifiques, » dit-elle. « Est-ce qu'ils coûtent cher ?»
Elle-même trouva son propre ton puéril.
« Malta !»
s'exclama sa mère. Mais la femme du désert des pluies eut un petit rire rauque. À vrai dire, les écarlates sont les plus courants et les plus faciles à éveiller. Mais ce sont ceux que je préfère. Le rouge est une couleur si chaude. Les verts et les bleus sont beaucoup plus rares et difficiles à animer. Par conséquent, ce sont ceux pour lesquels nous demandons le prix le plus élevé. Les bijoux de feu sont le monopole exclusif des Rouprous, naturellement.
« Naturellement, » dit Kefria. « Cet article qui s'ajoute au produit des Rouprous est fascinant. La rumeur ne lui rend pas justice. »
Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule.
« Oh, par ça, nous vous avons retardé. Mieux vaut entrer sans quoi la réunion risque de commencer sans nous. »«
Oh, on m'attendra, n'ayez crainte, » répondit Yanni Rouprous avec assurance. « C'est à ma demande qu'elle a lieu. » Mais vous avez raison, il est discourtois de faire patienter indûment les gens. Kefria, jeune Malta, ce fut un plaisir de parler avec vous.
Tout le plaisir est pour nous,
fit Kefria en s'écartant avec déférence pour laisser passer la femme au capuchon. Puis elle saisit sa fille par le bras en serrant juste un peu trop fort.
Oh, Malta !
Soupira-t-elle, sur quoi elle l'emmena sans la lâcher. Grand-mère les attendait aux portes de la salle des marchands, les lèvres pincées. Elle s'inclina profondément devant Yanni Rouprous, puis se tourna vers Malta et sa mère, l'air interrogateur. Kefria laissa s'écouler quelques instants pour être sûre que Yanni Rouprous ne pouvait plus l'entendre, puis elle déclara d'une voix sifflante
« Malta s'est présentée toute seule à elle !»«
Oh, Malta !» fit sa grand-mère d'un ton gémissant. La jeune fille avait parfois l'impression que son prénom faisait office de gourdin. Chaque fois, ou presque, qu'une des deux femmes le prononçait, c'était pour exprimer la colère, le mécontentement ou l'impatience que leur inspirait le monde. Elle suspendit son manteau à une patère, se retourna en haussant les épaules et voulut expliquer.
« J'avais seulement envie de voir ces bijoux de feu !»
Mais, comme d'habitude, sa mère et sa grand-mère ne l'écoutèrent pas et la firent entrer. De grands chandeliers dispensaient un faible éclairage dans la grande salle, dont un tiers était occupé par une estrade. Le plancher, que Malta n'avait jamais vu que dégagé pour former une piste de danse, était ce soir-là occupé par des rangées de chaises. Et, comme elle l'avait craint, ses parentes et elle arrivaient en retard. On était en train d'enlever les tables du buffet, et les invités étaient déjà assis ou cherchaient leur place.
« Puis-je m'installer à côté de Dilo ?»
demanda Malta avant qu'il ne fût trop tard.
« Dilo Trell n'est pas là, »
répondit grand-mère avec aigreur.
« Ses parents ont eu le bon sens de la laisser chez eux, et je regrette que nous n'en ayons pas fait autant. »« Je n'ai pas demandé à venir, »
répliqua Malta tandis que sa mère lançait un « maman » plein de reproches. Quelques instants après, Malta se retrouva assise entre les deux femmes à l'extrémité d'une longue rangée de chaises rembourrées, Davad Restart occupant le dernier siège. Un couple âgé était installé devant eux. Un homme au visage grêlé par la varicelle et son épouse enceinte, et, à côté de maman, deux frères aux bajoues pendantes. Tous ces gens n'étaient même pas intéressants à regarder. En s'asseyant bien droit et en dévissant le cou, Malta parvint à repérer Serwin Trell, s'y rangeait devant eux et de l'autre côté de la salle.
Il y avait des sièges libres derrière les trelles. Maman avait certainement fait exprès de s'asseoir si loin d'eux.
« Tiens-toi tranquille et écoute, » fit grand-mère d'une voix sifflante.
Avec un soupir, Malta se laissa aller contre le dossier de sa chaise. Sur l'estrade, le marchand Trentor psalmodiait une longue invocation à ça. C'était apparemment la liste de tous les malheurs des familles de marchands. Pourtant, au lieu de reprocher à ça de les avoir laissés se produire, il s'abaissait avec abjection à le remercier d'être toujours venu à leur aide. Si c'était Crion et non son oncle qui avait parlé, la litanie aurait peut-être été plus passionnante. Sur les chaises réservées aux marchands du désert des pluies, plusieurs personnages encapuchonnés avaient la tête baissée et Malta se demanda s'ils étaient déjà endormis. Après l'invocation, le marchand Drure entama le discours d'accueil, toujours la même antienne. « Tout marchand, tout parent, serments et liens anciens, fidélité, unité, sang, parenté, et ainsi de suite. » Malta remarqua un défaut dans le tissu de sa nouvelle robe, au niveau du genou. Quand elle voulut le faire observer à sa mère, celle-ci prit l'air agacé et lui fit signe de se taire. Drure regagna enfin son siège, Yannirupru se leva pour le remplacer, et Malta, se redressant sur sa chaise, se pencha en avant. La représentante du désert des pluies avait ôté son lourd manteau à capuche, mais ses traits restaient indiscernables. Elle portait une légère pèlerine couleur ivoire, dont faisait partie le voile de dentelle qui cachait son visage. Les bijoux de feu brillaient toujours vivement et n'avaient rien perdu de leur éclat dans la pénombre de la salle. En parlant, elle tournait souvent la tête pour s'adresser à toute l'assemblée. Alors, son voile s'agitait et les bijoux flamboyaient plus intensément. Il y en avait 15, tous d'un rouge luisant comme des noyaux de grenade, mais de la taille d'une amande. Malta était impatiente de raconter à Dilo qu'elle les avait vus de près et qu'elle en avait même parlé avec Yannirupruz. La matriarche leva soudain les mains et haussa la voix, et Malta prêta l'oreille à ses propos.
« Nous ne pouvons plus nous contenter d'attendre en espérant. Aucun d'entre nous ne peut plus se le permettre, car sinon nos secrets ne seront plus des secrets. Si le fleuve ne nous avait pas protégés en rongeant leurs navires et en les réduisant en petits bouts de bois alors qu'ils fuyaient, nous aurions été obligés de les tuer de nos propres mains. Marchands de Terrilville, comment cela a-t-il pu nous advenir? Qu'avez-vous fait de vos serments? Ce soir, vous écoutez Yannirupruz, mais je parle au nom de tous les marchands du désert des pluies, soyez-en assurés. Ce que nous avons affronté était plus qu'une simple menace. »
Elle se tut. Un long silence tomba sur le rassemblement, puis des murmures s'élevèrent peu à peu. Malta, supposant que la femme en avait fini, se pencha vers sa mère et lui chuchota
« Je vais chercher quelque chose à boire. »« Restez à vos places et taisez-vous, »
fit à mi-voix Ronica à sa fille et à sa petite-fille. Des plis inquiets barraient son front et encadraient sa bouche. Kefria ne dit rien et Malta se rassit avec un soupir. Sur leur gauche, un des frères Maflu se dressa soudain.
« Marchand Trouprous !»
lança-t-il. Quand tous les regards se furent portés sur lui, il demanda simplement
« Qu'attendez-vous de nous ?»«
Que vous teniez vos promesses !»
répliqua-t-elle sèchement. Puis, d'un ton radouci, comme si sa propre réponse l'avait étonnée, elle poursuivit
« Il faut demeurer unis. Nous devons envoyer des représentants au gouverneur. Pour des raisons évidentes, on ne peut pas les choisir parmi les familles du désert des pluies. Mais nous ferons front commun avec vous pour le message.
Et quel serait-il ?
Fit quelqu'un dans le public.
Je meurs de soif,
murmura Malta. Sa mère la fit taire d'un froncement de sourcils.
Il faut exiger du gouverneur qu'il honore notre pacte originel. Il faut exiger qu'il rappelle ses soi-disant nouveaux marchands et qu'il nous rétrocède les terres qu'il leur a données.
« Et s'il refuse ? »
sentit une marchande au fond de la salle.
Yanni Rouprou se déplaça sur l'estrade, l'air mal à l'aise. Elle n'avait pas envie de répondre à la question.
« Demandons-nous d'abord de tenir la parole de ses ancêtres. Il faut commencer par là. Nous nous plaignons, nous grommelons entre nous, nous présentons des revendications individuelles, mais jamais nous ne nous sommes dressés comme un seul homme pour déclarer « Honorez votre engagement si vous voulez que nous honorions le nôtre. »
« Et s'il refuse ?»
répéta la femme inébranlable. Yanni Rouprou leva ses mains gantées, puis les laissa retomber.
« Alors, c'est qu'il n'a pas d'honneur, »
dit-elle d'une voix basse qui porta néanmoins dans toute la salle.
« Qu'ont les marchands à faire de ceux qui n'ont pas d'honneur ? S'il manque à sa parole... « Nous devons reprendre la nôtre, cesser de lui payer tribut et faire commerce de nos produits où il nous plaît, au lieu de faire transiter les meilleurs par Jamelia. »
Un ton encore en dessous, elle ajouta
« Chassez les nouveaux marchands, nous gouverner nous-mêmes. » Ce fut un tollé général. Cris d'indignation, glapissement de peur et rugissement d'approbation mélangés.
Davad Restart se dressa brusquement.
« Écoutez-moi » brailla-t-il.
Personne ne lui prêtant attention, il monta sur sa chaise en tanguant lourdement.
« Écoutez-moi »
mugit-il d'une voix étonnamment forte pour un homme d'aspect si avachi. Tous les regards se tournèrent vers lui et le brouhaha se calma.
« C'est de la folie !»
poursuivit-il.
« Réfléchissez à la suite. Le gouverneur ne lâchera pas si facilement Terrilville. Il enverra des bateaux entiers de soldats, il confisquera nos propriétés, il les transférera aux nouveaux marchands et il réduira nos familles en esclavage. Non, nous devons travailler main dans la main avec les nouveaux marchands, leur donner non pas tout mais assez pour les satisfaire, les intégrer à notre communauté comme nous l'avons fait pour les immigrants des trois navires. Je ne dis pas qu'il faut leur apprendre tout ce que nous savons, ni leur permettre de commercer avec les marchands du désert des pluies, mais...
« Que dites-vous dans ce cas, Restart ?»
fit une voix furieuse du fond de la salle.
« Puisque vous parlez de vos amis les nouveaux marchands, que veulent-ils de nous, au juste ?»«
Si envoyer des navires remonter le passage intérieur intéressait le gouverneur, »
renchérit quelqu'un d'autre,
« il y a belle lurette qui l'aurait éliminé les pirates. Il paraît que les vieilles galères de patrouille pourrissent à quai par manque d'argent pour les garnir en hommes et les réparer. Tous les impôts passent au divertissement du gouverneur. Il se préoccupe comme d'une guigne des serpents et des pirates qui anéantissent notre gagne-pain. » Il ne pense qu'à s'amuser. Il ne représente pas une menace pour nous. Pourquoi nous fatiguer à lui soumettre des requêtes? Chassons nous-mêmes ces nouveaux marchands. Nous n'avons pas besoin de Jamelia.
Où vendrions-nous nos produits, alors? Le meilleur commerce se fait au sud, à moins que vous ne soyez prêts à négocier avec les barbares du nord.
Voilà un autre point à soulever. Les pirates. Le pacte prévoit que le gouverneur doit nous protéger contre les maraudeurs des mers. Tant que nous en sommes à présenter des exigences, il faut expliquer au gouverneur que...
Nous avons besoin de Jamelia. Que sommes-nous sans elle? Jamelia, c'est la poésie, l'art, la musique, c'est notre culture mère. On ne peut pas rompre tout échange avec elle et maintenir...
Et les serpents?
Ces satanés transports d'esclaves les attirent. Il faut réclamer l'interdiction de leur transit par le passage intérieur.
Nous sommes des gens d'honneur. Même si le gouverneur oublie de tenir sa promesse, nous n'en restons pas moins liés par...
Prendre à nos maisons et nos terres et il nous asservira tous. Nous nous retrouverons dans la situation de nos ancêtres, exilés, criminels, sans espoir de grâce.
« Nous devrions commencer par organiser une flotte de patrouilles, non seulement pour tenir les nouveaux marchands à l'écart de l'accès au désert des pluies, mais aussi pour chasser les pirates et les serpents. Il faut également expliquer une fois pour toutes aux États Khalsed que la frontière ne se situe pas sur le fleuve du désert des pluies, mais que leur autorité s'arrête au goulet du plan. Ils essayent toujours de repousser. Nous aurions alors deux guerres sur les bras, avec Khalsed d'un côté et Jamelia de l'autre, c'est stupide. N'oubliez pas que, sans Jamelia et le gouverneur, Khalsed aurait tenté de nous envahir il y a des années. C'est ce qui nous pend au nez si nous rompons les ponts avec Jamelia. La guerre avec les États Khalsed.
La guerre? Qui parle de guerre? Il suffit d'exiger que le gouverneur Kosgo tienne les promesses que le gouverneur Esclépius nous a faites.
Une fois de plus, toute la salle éclata en cris furieux. Debout, voire sur leurs chaises, les marchands vociféraient. Malta ne comprenait rien à ce qu'il disait, comme la plupart des personnes présentes, sans doute.
« Maman, chuchota-t-elle d'une voix suppliante, je meurs de soif. Il fait étouffant ici. Puis-je sortir, prendre un peu l'air ?»«
Pas maintenant !» répondit sa mère d'un ton cassant.
« Malta, tais-toi !»
renchérit sa grand-mère sans même la regarder. Elle paraissait essayer de suivre la conversation entre deux hommes, trois rangées devant elle.
« S'il vous plaît !»
criait Yanni Khouprous depuis l'estrade.
« Écoutez-moi, je vous en prie, je vous en prie !»
Le tumulte s'apaisant, elle baissa la voix pour obliger les auditeurs à se taire pour l'entendre.
Voici le plus grand danger qui nous menace. Les querelles intestines. Nous parlons avec de trop nombreuses voix, si bien que le gouverneur n'en perçoit aucune. Il nous faut une délégation importante pour porter nos propos au gouverneur, et nous devons nous montrer unis et sincères dans nos paroles. Il doit entendre une voix forte, mais tant que nous nous entre-déchirerons comme...
« J'ai besoin d'aller au cabinet !»
murmura Malta. Là, on ne discutait jamais sur ce point. Sa grand-mère secoua la tête d'un air mécontent, mais on la laissa aller. Davad Restart était si concentré sur le discours de Yanni Khouprous qu'il la remarqua à peine quand elle se faufila devant lui. Elle fit halte au buffet pour se servir un verre de vin. Elle n'était pas seule à avoir quitté son siège. Dans toute la salle, des gens formaient de petits groupes et discutaient sans prêter guère d'attention à la marchande du désert des pluies sur l'estrade. Certains argumentaient entre eux, d'autres échangeaient des hochements de tête approbateurs aux propos de l'oratrice. Presque tout le monde était nettement plus âgé que Malta. Elle chercha des yeux Serwin Trell. Mais il était toujours assis avec sa famille et paraissait vivement intéressé par les échanges entre les marchands.
La politique.
En son fort intérieur, Malta était convaincue que si personne ne s'en occupait, la vie continuerait comme d'habitude. Les discussions allaient sans doute durer tout le reste de la soirée et gâcher la fête. Elle soupira et, emportant son verre, elle sortit dans l'air vif de la nuit d'hiver. Les torches en bordure de l'allée s'étaient consumées. Et il faisait très sombre. Dans le ciel, les étoiles scintillaient d'un éclat glacé. En les regardant, Malta pensa aux bijoux de feu.
Les bleus et les verts étaient les plus rares. Elle mourait d'impatience de le dire à Dilo. Elle savait déjà quel ton elle prendrait, comme s'il s'agissait d'un fait de notoriété publique.
Dilo était la personne idéale à qui faire part de son savoir, parce que c'était une commère incorrigible. Elle le répéterait à qui voudrait l'entendre. N'avait-elle pas parlé à toutes les filles de Malta et de sa robe verte? Naturellement, elle leur avait dit aussi que Davad Restart l'avait obligée à rentrer chez elle. Malta avait été stupide de lui raconter toute la vérité. Mais elle était si furieuse à ce moment-là qu'elle avait eu besoin de s'épancher. Et la présente soirée allait réparer la gêne qu'elle avait éprouvée. Sans dire à Dilo à quel point elle s'était ennuyée, elle évoquerait la conversation qu'elle avait eue avec Yanni Khouprous à propos des bijoux de feu. D'un pas flânant, elle longea les voitures tout en buvant son vin à petites gorgées. Certains cochers s'abritaient du froid dans les véhicules, tandis que d'autres étaient restés sur leurs sièges, la tête rentrée dans les épaules.
Quelques-uns s'étaient réunis au coin de l'allée pour bavarder et sans doute partager une lampée ou deux d'une flasque. Presque au bout de l'allée, elle dépassa la voiture de Davad et parvint à la hauteur de celle des représentants du désert des pluies.
Elle avait laissé son affreuse vieille cape dans la salle et commençait à ressentir les effets du froid nocturne.
Elle croisa les bras sur la poitrine en faisant attention de ne pas faire tomber de vin sur le devant de sa robe et poursuivit sa promenade. Elle s'arrêta pour examiner le blason d'une portière.
Ridicule, il représentait un coq couronné.
Proprous, murmura-t-elle en suivant le dessin d'un doigt léger afin de le garder en mémoire. Une brève lueur apparut dans le sillage de son index, et elle comprit que les armoiries avaient été réalisées en jitzine, métal qui avait autrefois connu son heure de popularité. D'ailleurs, certains vieux musiciens des rues en faisaient encore leurs cymbales et leurs clochettes à doigts, à cause du chatoiement qu'il émettait lorsqu'on le frappait. C'était une fête merveilleuse pour l'œil, mais en réalité, le cuivre sonnait mieux à l'oreille. Cependant, c'était un détail de plus à rapporter à Dilo. Elle continua de marcher lentement en songeant à la manière dont elle présenterait ses découvertes. Il est curieux de penser que le contact humain puisse éveiller à la fois le jitzine et les bijoux de feu, fit-elle tout haut. Non, ce n'était pas tout à fait ça. Il fallait trouver une phrase plus théâtrale. Tout près d'elle, un œil bleu clignota et s'ouvrit. Elle s'écarta précipitamment, puis observa le phénomène. Quelqu'un se tenait là, appuyé à la voiture des Ruprous. La lueur bleue était celle d'un bijou attaché à la gorge de l'inconnu. La silhouette svelte, il portait le lourd manteau à capuche des habitants du désert des pluies, une écharpe autour du cou et un voile sur le visage, comme une femme. C'était sans doute le cocher.
« Bonsoir, »
fit-elle d'un ton assuré afin de dissimuler sa surprise passagère, et elle s'apprêta à continuer son chemin.
« Vous savez, » fit-il d'un ton tranquille, « le contact humain n'est pas obligatoire. N'importe quel mouvement les fait briller une fois qu'ils sont éveillés. Voyez plutôt. »
Il tendit une main gantée et l'agita brièvement. Deux petites pierres bleues s'allumèrent sur sa manche. Malta ne put s'empêcher de s'arrêter pour les regarder, fascinée. Les bijoux d'un azur profond de saphir évoquaient des danseurs étincelants dans le noir.
Je croyais que les bleus et les verts étaient les plus rares et les plus chers,
remarqua-t-elle avant de boire une petite gorgée de son vin. Il lui paraissait moins désobligeant d'exprimer ainsi son étonnement que de demander comment un simple cocher pouvait être en possession de tels joyaux.
C'est exact, reconnut l'homme sans fausse modestie. Mais ceux-ci sont de très petite taille, et ils ont malheureusement un léger défaut. Ils se sont fêlés lors du processus d'extraction.
Il haussa les épaules. Malta vit le bijou à sa gorge monter et descendre.
Ils ne brûleront pas longtemps, sans doute. Guère plus d'un an ou deux. Mais je ne supportais pas l'idée de les voir jetés au rebut.
Évidemment,
s'exclama la jeune fille presque scandalisée.
Jeter des bijoux de feu, c'était honteux.
Vous dites qu'ils brûlent? Ils sont chauds alors?
Il eut un petit rire.
Oh, pas au sens où on l'entend ordinairement.
Tenez, touchez-en un. Et il tendit à nouveau la main vers elle. Elle décroisa les bras pour approcher un index timide et tapota prudemment une des pierres. Non, ce n'était pas brûlant. Enhardie, elle posa encore une fois le doigt. La surface était lisse et froide, comme du verre, encore que Malta sentit une infime entaille en un endroit. Elle caressa l'autre bijou, puis recroisa les bras.
« Ils sont merveilleux !» dit-elle en frissonnant.
« L'air est glacé ce soir. Mieux vaut que je rentre. Non, je veux dire, vous avez froid ?»«
Un peu. J'ai laissé ma cape à l'intérieur. »
Et elle se détourna pour remonter l'allée.
« Tenez, prenez la mienne. »
Il s'était redressé pour dégrafer son vêtement.
« Oh, je vous remercie, mais je suis très bien ainsi. Je ne veux pas vous priver de votre cape.
Je vais rentrer, c'est aussi simple. »
La seule idée que ce tissu qui avait été en contact avec un corps verruqueux pût toucher sa peau la glaçait davantage que la brise nocturne.
Elle s'éloigna d'un pas pressé, mais l'homme la suivit.
« Tenez, essayez mon écharpe dans ce cas. Elle n'en a pas l'air, mais elle est étonnamment chaude. Je vous en prie, essayez-la. »
Il avait ôté la bande de tissu de sa gorge, et quand Malta se retourna, il la drapa sur son bras. Elle dégageait en effet une chaleur surprenante. Mais ce fut le clignotement du bijou de feu bleu qui empêcha la jeune fille de la renvoyer au visage de l'homme.
« Ah !»
fit-elle. Porter une de ces fameuses pierres ne serait-ce que quelques instants. L'occasion était trop belle. Elle pourrait toujours prendre un bain en rentrant à la maison.
« Voulez-vous me tenir ceci, s'il vous plaît ? »
demanda-t-elle en tendant à l'homme son verre de vin. Il le prit et, rapidement, elle se passa l'écharpe sur les épaules. Son interlocuteur la portait comme un cache-nez, mais on pouvait en étirer la maille lâche jusqu'à obtenir une sorte de châle. Et elle était chaude, très chaude. Malta l'arrangea de façon que le bijou bleu repose entre ses seins. Elle baissa les yeux sur lui.
« C'est splendide. On dirait... Je ne sais pas ce qu'on dirait. »
Certaines choses ne ressemblent qu'à elles-mêmes. Certaines beautés sont incomparables, fit l'homme à mi-voix.
Oui,
acquiesça-t-elle, les yeux perdus dans les profondeurs de la pierre.
Au bout d'un moment, il la ramena à la réalité.
Votre vin ? Ah !
Elle fronça les sourcils.
Je n'en veux plus.
Je vous autorise à le terminer si vous en avez envie.
Vous m'autorisez ?
Il y avait une note à la fois d'amusement et de surprise dans la voix de l'homme, comme si un délicat équilibre entre eux venait d'être perturbé en sa faveur. Malta en resta un instant décontenancée.
« Je veux dire, si vous en avez envie. »«
Oh, j'en ai envie, » assura-t-il.
Le voile qui dissimulait son visage s'entr'ouvrit. Adroitement, il fit passer le verre par la fente et le vida d'un mouvement expert. Puis, il le leva et l'examina un moment à la lumière des étoiles. Enfin, il le glissa dans sa manche après avoir jeté un coup d'œil à Malta à la dérobée. Du moins, en eut-elle l'impression.
Un petit souvenir, expliqua-t-il.
Et tout à coup, Malta se rendit compte qu'il était plus âgé qu'elle, et qu'il était peut-être inconvenant pour elle de s'entretenir avec lui, qu'on pouvait prêter un sens dont elle n'avait pas conscience à leurs propos à bâtons rompus. Une jeune fille comme il faut ne bavarde pas dans le noir avec des cochers inconnus.
« Il vaut mieux que je rentre. Ma mère va se demander où je suis, » dit-elle pour s'excuser.
« Certainement, » murmura-t-il. Malta perçut de nouveau de l'amusement dans sa voix et se sentit un peu inquiète. Non, pas inquiète, méfiante. L'homme dut s'en apercevoir, car quand elle voulut s'éloigner, il la suivit et vint même marcher à côté d'elle, comme s'il l'escortait. Elle craignait à demi qu'il ne l'accompagnât à l'intérieur, mais il s'arrêta devant la porte.
« Je souhaiterais vous demander quelque chose avant que vous ne vous en alliez, » fit-il soudain.
« Oh, bien sûr, »
répondit Malta en portant la main vers l'écharpe.
« Votre nom ?»
Elle se pétrifia. Avait-il oublié qu'elle portait son écharpe ornée du bijou de feu ? Si oui, pas question de le lui rappeler. Naturellement, elle ne la garderait pas, en tout cas pas éternellement, rien que le temps de la montrer à Dilo.
« Malta !» dit-elle.
C'était assez pour qu'il découvre chez qui chercher l'écharpe quand il se souviendrait de l'avoir prêtée, mais insuffisant pour qu'il la retrouve trop vite.
Malta.
Il laissa le prénom en suspens, espérant encourager son interlocutrice à lui révéler son nom, mais elle fit mine de ne pas comprendre.
Je vois, reprit-il au bout d'un moment.
Malta.
Eh bien,
bonne soirée, Malta.
Bonsoir.
Elle se détourna et franchit les grandes portes d'un pas pressé. Une fois à l'intérieur, elle se hâta d'ôter l'écharpe aux bijoux. Elle ignorait de quelle matière elle était faite, mais le tissage était arachnéen, et quand elle la froissa entre ses mains, elle forma une boule assez compacte pour tenir dans une de ses poches cousues sur la doublure de sa cape. Alors, avec un petit sourire satisfait, Malta regagna la salle. Les discours s'y poursuivaient bon train. Pacte, compromis, récolte, esclavage, guerre, embargo. Elle en avait par-dessus la tête. Elle aurait voulu que les orateurs se taisent, afin que sa mère la ramène à la maison, où elle pourrait admirer le bijou de feu dans la solitude de sa chambre. Nul dans le nœud ne paraissait s'apercevoir qu'il y eût le moindre tracas, à part Cessuréa, peut-être, qui semblait un peu nerveux. Les autres avaient l'air satisfaits. La nourriture était abondante et facilement accessible, l'atmosphère de ce plein était tiède, et les sels inconnus éveillaient d'étonnantes couleurs sur les nouvelles peaux révélées par les mues fréquentes dues à une alimentation riche qui favorisait la croissance. Peut-être était-ce là tout ce que désiraient les autres, se dit Shriver amèrement. Peut-être croyait-il que c'était cela, la renaissance. Une existence indolente de ripaille et de mue. Elle ne partageait pas ce point de vue. Elle le savait, la quête de Molkin ne s'arrêtait pas là. Il fallait que le reste du nœud ne vît pas plus loin que le bout de son nez pour ne pas percevoir son angoisse et sa détresse. Il avait guidé les siens vers le nord à la suite de l'ombre du pourvoyeur. À plusieurs reprises, il s'était arrêté devant des courants chauds d'eau non salée pour goûter et goûter encore ces étranges atmosphères. Les autres avaient à chaque fois voulu se hâter derrière le pourvoyeur, et en une occasion, Cessuréa les avait tous décontenancés en déployant sa crinière et en leur bloquant le passage afin d'empêcher leur absurde poursuite. Mais, quelques instants plus tard, Molkin avait refermé les mâchoires, l'air perplexe, et quitté le courant chaud pour reprendre sa place dans l'ombre du pourvoyeur. Shriver ne s'était pas trop fait de soucis quand le pourvoyeur avait fait halte et Molkin n'avait pas renâclé à rester auprès de lui. Qui était-elle pour douter du bien fondé des actions de celui qui détenait les souvenirs des anciens? Mais quand le pourvoyeur avait fait demi-tour pour repartir vers le sud et que Molkin avait ordonné de le suivre, elle avait été prise d'inquiétude. Quelque chose n'était pas normal. Cessuréa avait paru partager son malaise. Ils avaient aperçu d'autres nœuds dans le sillage d'autres pourvoyeurs. Tous semblaient satisfaits et bien nourris. À ces moments-là, Shriver s'était demandé si ce n'était pas elle qui se trompait. Peut-être avait-elle trop rêvé? Peut-être avait-elle pris la tradition sacrée trop au pied de la lettre? Mais alors elle remarquait l'attitude distraite de Molkin même pendant qu'il mangeait. Tandis que les autres se gavaient en claquant des mâchoires, ils s'immobilisaient soudain et restaient inertes, la gueule ouverte et les ouïes battantes, pour capter une insaisissable odeur. Souvent aussi, lorsque le pourvoyeur s'était arrêté quelque temps et que le nœud se reposait, il s'élevait presque jusqu'au manque pour se lancer dans une danse sinueuse, les yeux mi-clos. En ces occasions, Cessuréa l'observait aussi intensément que Shriver. D'innombrables fois de suite, leur chef formait une boucle de son corps par laquelle il glissait sur toute sa longueur afin de sensibiliser la surface entière de sa peau à tout ce que pouvait lui apprendre l'atmosphère. Par intermittence, d'une voix aiguë de trompe, il débitait des propos incompréhensibles émaillés de bribes de sentences sacrées. Parfois, il haussait la tête hors du plein, dans le manque, puis se laissait retomber en marmonnant des phrases où il était question de « lumière ». Shriver n'en pouvait plus. Elle le laissa danser jusqu'à ce que l'épuisement obscurcisse le regard de Molkin et que, dans un vacillement là, il commence à descendre vers le fond. La crinière détendue en signe de paix, elle s'approcha et le suivit dans sa lente chute. « Molkin, » fit-elle à mi-voix, « la vision t'a-t-elle fait défaut? Sommes-nous perdus ?» Il ouvrit les yeux et la regarda fixement. Puis, de façon presque léthargique, Il enroula une boucle de son corps autour d'elle et l'entraîna vers la vase d'Oussâtre pour s'en mêler avec elle.
« Ce n'est pas seulement un lieu, lui dit-il d'une voix rêveuse, c'est aussi un temps. Et ce n'est pas seulement un temps et un lieu, mais aussi un nœud. Un nœud comme il ne s'en est pas réuni depuis les époques anciennes. Je sens presque la présence d'un qui se souvient. » Shriver fit frissonner ses anneaux dans l'espoir de lire les souvenirs de son guide.
« Molkin, n'es-tu pas celui qui se souvient ?»«
Moi ?»
Ses yeux étaient de nouveau mi-clos.
« Non, pas complètement.
Je me rappelle presque. Je sais qu'il existe un lieu, un temps et un nœud. Quand je les percevrai, je les reconnaîtrai sans hésitation.
Nous en sommes proches, très proches, Shriver. Il faut persévérer et ne pas douter. Si souvent le moment est venu et reparti, et nous l'avons manqué. Je crains que si nous le laissons échapper encore une fois, tous nos souvenirs des temps anciens ne s'effacent et que nous ne redevenions plus jamais ce que nous étions.
Et qu'étions-nous ? Demanda-t-elle, simplement pour l'entendre confirmer ce qu'elle savait déjà.
Nous étions les maîtres, et nous nous déplacions librement, aussi bien dans le manque que dans le plein. Ce que l'un savait, tous le savaient, et nous partagions les souvenirs du temps entier depuis le commencement. Nous étions puissants et sages, respectés et révérés par les créatures intelligentes inférieures.
Shriver posa la question habituelle.
« Et que s'est-il passé ?»«
Le temps est venu de nous refaçonner, de confondre les essences de nos corps afin de créer de nouveaux êtres qui jouissent d'une vitalité et d'une force nouvelles. Le temps est venu d'accomplir le cycle ancien de l'union et de la séparation, puis de la croissance. Le temps est venu de renouveler notre corps. »
Shriver connaissait leur réponse.
« Et que va-t-il se produire maintenant ? » récita-t-elle.
« Tous se réuniront au temps et au lieu du rassemblement. Tous les souvenirs seront à nouveau partagés. Tout ce que chacun gardait précieusement dans sa mémoire sera donné à tous. Le voyage vers la Renaissance touchera à son terme et nous nous élèverons encore une fois triomphants. »
« Il en sera ainsi, » fit Cessuréa, non loin de là, dans le nœud. « Il en sera ainsi. »